Alerte. Ah, les mêmes faut mes petites habitudes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, il n'y a rien qui marche. Je vous signale que l'électricité a un peu baissé, si ça se trouve, allez savoir ce qui va se passer.
Le 18-20.
Allez, on pourrait donner des chiffres, c'est facile. D'ailleurs, on va peut-être finir par en donner un ou deux. La dernière étude, elle parle de tabagisme chez les femmes, elle est assez effrayante. On finira par le faire parce que parfois, c'est la statistique qui sert de déclic, le moment où on comprend qu'on n'est pas immortel. Le déclic, parfois, c'est le prix, ça a joué ces derniers temps. L'approche du paquet à 10 euros a fait renoncer presque un million, plus d'un million de personnes d'ailleurs. Il y a plein de raisons pour arrêter la clope, les habits qui sentent le tabac froid, la laine de chacal au réveil, les poumons craché dès le deuxième étage. Et puis, il y a aussi les petites histoires. Un pari finalement réussi, une sortie de bronchite carabinée, une remarque quand on vous embrasse, un match de foot perdu par l'équipe de France véridique. On en parlera dans un instant. Et on va faire ça ensemble, justement, puisque c'est le mois sans tabac qui commence. Et ben, venez nous raconter vos stratégies, vos choix, votre hypnose, vos patchs, votre acupuncteur, vos cours de yoga, votre vapotage. Venez nous dire si ça va mieux, venez nous dire pourquoi c'est difficile, à quelles heures, demandez-nous quoi faire. Si vous craquez, si vous voulez, ben je commence. Moi, j'ai développé une passion étonnante pour les brocolis et les longueurs de piscine. Ne me demandez pas pourquoi. Allez, c'est à vous.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et Cécile, bonsoir, c'est vous la première, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Cécile.
Je voulais faire part de mon expérience qui a commencé par acheter une cigarette électronique par souci d'économie. Et puis le vendeur a insisté pour me vendre un produit à 11 mg. Mon paquet de cigarettes marquait 9 mg. Je dis non, écoutez, je préfère prendre 6 mg et pas plus. Évidemment, son intérêt, c'est que vous en preniez plus, puisque son intérêt, c'est de vous en vendre, évidemment. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de diminuer de 6 mg. J'ai fait un mélange, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, moins de 6 mg, mais à l'époque, c'était 6 mg et 0 mg. J'ai fait un mélange de 0 et de 6 pour donner du 3. Puis, petit à petit, je suis arrivée à 0 mg. En tout, ça m'a pris à peu près 8 mois. Et petit à petit, je n'utilisais plus la cigarette électronique et j'ai arrêté, mais alors sans aucun effort. Vraiment, je n'ai fait aucun effort. Et pourtant, dans mon entourage, beaucoup de gens fument autour de moi et j'ai jamais eu envie de reprendre une cigarette, mais à aucun moment. Et ça fait 4 ans et demi maintenant. Et je suis vraiment très contente de m'être dégagée de cette accoutumance, vraiment.
Vous étiez grosse fumeuse, Cécile, ou pas ?
Je fumais à peu près un paquet de cigarettes par jour et quelquefois plus quand il y avait une soirée, un repas de famille peut-être. Mais je fumais à peu près un paquet par jour.
Et quand vous avez des... est-ce que ça vous arrive aujourd'hui d'avoir une envie de cigarette ? Comment vous la calmez ?
Mais jamais. Ben, je ne sais pas. Écoutez, c'est petit à petit, j'ai juste diminué. Je suis arrivée à zéro et au bout d'un mois et demi à peu près à zéro, ben, je n'ai plus eu envie de continuer à vapoter. Et depuis, je vous dis, je n'ai jamais eu aucun manque, mais vraiment aucun. Et pourtant, je vous dis, on fume autour de moi, donc ça pourrait me donner envie de recommencer, mais pas du tout.
Eh ben écoutez, j'ai envie de dire formidable. Hein, Cécile, bravo, merci beaucoup.
Je suis ravie et j'aimerais bien que beaucoup de gens suivent cet exemple, essayent en tout cas, pour arrêter parce que c'est quand même bien.
Ah bah oui, ça j'imagine bien. Merci beaucoup pour ce premier témoignage, Cécile, pour parler ensemble ce soir et pour comparer vos arrêts de la cigarette aux uns et aux autres et vos méthodes de contournement, j'allais dire, les duettistes de la lutte anti-tabac dans le studio du téléphone sonne. Anne Borniella, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin addictologue, présidente du réseau de prévention des addictions, et bonsoir Marion Adler.
Bonsoir.
Vous êtes médecin tabacologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. On a envie de dire bravo Cécile, Marion Adler, et pourquoi pas, en fait,
bravo,
en effet.
Et puis
son système à elle, au fond.
C'est
chacun fait ses petits mélanges comme il l'entend.
Absolument. Alors, c'est une non-fumeuse heureuse. Elle a arrêté de fumer avec la vapoteuse. Donc, c'est tout à fait possible d'arrêter de fumer avec la vapoteuse, ce qu'on appelle la vape et non pas la cigarette électronique, parce que je trouve que c'est trop proche de la cigarette. Donc, maintenant, on va dire la vape dans l'émission. C'est important
c'est
de
rigolo.
Savoir.
Tout est psychologique.
Et oui, c'est important.
Vous avez raison.
C'est important aussi de savoir que Le vendeur, il lui a vendu ce qu'il pensait être la dose qui lui correspondait. C'est plutôt correct de vendre une dose plutôt forte de nicotine, lui permettant de moins vapoter et de plus facilement s'en détacher. Donc je dirais que c'était plutôt bien. Après, il faut qu'elle-même voie quel est le dosage qui lui correspond. C'est ce qu'elle a fait. En diminuant au fur et à mesure, du coup, elle était de moins en moins dépendante de la nicotine et elle a pu se débarrasser de la vapoteuse de cette manière-là.
Anne Borgne.
Oui, une remarque intéressante de
Cécile.
Cécile, c'est ça. Cécile, d'abord, que je félicite à mon tour, c'est qu'elle a comparé ce qui avait marqué sur son paquet de cigarettes et la quantité de nicotine qu'elle pensait absorber. En fait, ça, c'est un calcul qui est complètement infaisable parce que ça dépend complètement de la manière dont on tire sur ses cigarettes et on peut tirer beaucoup de nicotine d'une cigarette ou très peu. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien marqué sur les paquets de cigarettes parce que ça n'avait pas de sens de marquer une quantité de nicotine.
Ça veut dire que plus on aspire fort, plus on prend de nicotine ou pas?
Tout à fait.
C'est aussi basique que ça? D'accord.
Et plus on prend de produits de combustion, donc les produits qui sont les plus dangereux. On sait que c'est pas la nicotine qui est dangereuse. La preuve, c'est que les substituts nicotiniques ne sont pas dangereux, la vape nicotinée non plus.
Alors, l'une comme l'autre, puisque vous avez déjà participé au téléphone sonne, vous nous aviez dit à l'époque, et c'est ce que disent d'ailleurs tous les gens spécialisés, que vapoter, pourquoi pas, en effet, c'est toujours mieux que de fumer de toute façon. Est-ce que vous attendez avec une grande impatience cette étude qui va avoir lieu là, qui visiblement est une étude à grande échelle, pour expliquer, enfin pour voir un peu s'il y a, alors je ne sais pas très bien ce qu'ils vont calculer, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace, effet secondaire ou pas, est-ce qu'on attend ça avec une certaine impatience ou pas? Parce que moi j'ai l'impression d'avoir lu tout et son contraire sur la comment on dit
la vapoteuse, la vaporette.
Très bien.
Alors cette étude, elle a le mérite d'exister, donc voilà, ça va être une première en France. Moi je trouve que les conditions de l'étude ne sont pas les conditions de la réalité de l'utilisation de la vape, puisqu'il n'y aura qu'un seul dosage et un seul goût. Alors qu'on sait bien, et l'auditrice Cécile vient de nous montrer qu'elle avait pris 6 mg, ensuite elle s'est fait son mélange pour que ça fasse du 3. Je ne sais pas quel goût elle a utilisé, mais ce qui est intéressant dans la vape, c'est de pouvoir utiliser les goûts qui nous font plaisir et d'arrêter de fumer en se faisant plaisir. Donc du coup, je trouve que ça va être réducteur et que peut-être qu'on aura des mauvais résultats ou pas les aussi bons résultats qu'on aurait pu espérer avec la vape telle qu'elle est utilisée dans la vraie vie.
Marion Hilder, juste avant qu'on retourne au standard.
Oui, je pense que c'est important aussi, c'est exactement ce que dit Anne, de savoir qu'il y a plein d'études qui existent et qu'il faut aussi regarder toutes ces études qui sont très scientifiques, certaines. Et donc je pense que c'est important de prendre un tout. Et pourquoi pas celle-là, mais d'autres aussi.
Alors, on manque quand même d'infos, non, peut-être. On manque de recul, peut-être, au moins, sur la
vape. Il y a 10 ans, quand même.
Ouais, il y a 10 ans, et il y a, comme dit Marion, énormément d'études qui montrent son efficacité et sa non-dangerosité. L'équivalent du système de santé, du ministère de la Santé français, PHE. Donc comment il s'appelle?
Le PHE.
Oui, c'est ça. En Angleterre, a fait une grande étude et a montré que si la cigarette brûlée est à 100% de dangerosité, la vape est à moins de 5% de dangerosité.
Donc effectivement, la différence est importante. Bonsoir Evelyne.
Oui, bonsoir.
Et soyez la bienvenue Evelyne, allez-y.
Merci, bonsoir. Oui, moi je vous appelle parce que j'ai arrêté de fumer donc en 1999. C'était vraiment à la suite d'un choc psychologique. Je pense que ça doit être très important aussi. Donc j'avais appris que ma fille allait se marier, que mon fils allait être papa, et donc j'allais être grand-mère. Et tout d'un coup, j'ai eu un déclic énorme. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis en train de risquer ma vie et je vais pas connaître mes petits-enfants. Je vais pas le connaître. Mais c'est pas possible. Et tout d'un coup, ça m'a paru comme une évidence d'arrêter. Voilà.
Et vous avez arrêté comment ?
Comme ça, j'ai arrêté, j'ai écrasé ma dernière cigarette, et puis c'est tout. Et puis après, j'étais quand même sur cette lancée de psychologie, de me dire, bon voilà, maintenant je vais vivre peut-être quelque chose d'intéressant. Et puis non, j'ai pris des plantes, j'ai pris des gélules de plantes, de la balotte, de la passiflore, des choses comme ça. Et j'ai gardé mon paquet de cigarettes, mon dernier paquet avec mon briquet, toujours chez moi.
Ah ouais, voilà, vous l'avez toujours ou pas?
Oui, bien sûr.
Non, parce que, je vais pas raconter ma vie, mais moi, la première fois que j'ai arrêté, j'avais gardé mon paquet de clopes, il y en avait 13, et quand j'ai repris, j'ai fumé les 13 d'un coup.
Non. Moi, c'était ma liberté. Voilà, je me suis dit, c'est ma liberté, donc je sais que je les ai sous les yeux. Je peux les reprendre quand je veux, et en fait, je ne veux pas les reprendre. Voilà, donc, et depuis, ça va très bien, je suis contente, j'ai vu grandir mes petits-enfants, je suis tout à fait ravie, et voilà. Et pourtant, je vivais dans un milieu, et je travaillais dans un milieu professionnel où on fumait beaucoup. Je me suis souvent trouvée parmi d'autres grands fumeurs, et moi, je fumais aussi personnellement avant d'arrêter jusqu'à 2 paquets par jour, et donc voilà. Et tout d'un coup, voilà, ça m'a paru. Je crois que c'est important que ce soit déjà dans sa tête, psychologiquement, voilà. Parce que après, Bon, c'est vrai, on peut prendre des patchs, des trucs, des machins, mais moi, je crois que c'est dans la tête quand même que ça se passe. Au démarrage, il y a un déclic, quoi, qui on se dit non, là, c'est pas possible parce que je vais pas connaître ça, ou je vais bousiller ma vie, ou voilà. Mmh. Je prends un risque complètement stupide, et voilà. Mmh. Et donc, moi, je fumais, je le dis, jusqu'à 2 paquets par jour, et je ne fume plus depuis 1999, novembre d'ailleurs.
Eh ben écoutez, comme quoi, ce fameux mois de novembre. Merci beaucoup pour ce témoignage, Evelyne Marion Adler. Je vous voyais faire comme ça avec la main. Les substituts, quels qu'ils soient, en fait, aident. Alors tant mieux pour Evelyne si elle n'a pas eu besoin.
Voilà, bravo, elle a réussi, elle est libre, elle n'a plus besoin de fumer. Et c'est ça la liberté. Maintenant, elle a eu la chance de ne pas ressentir trop fort les effets secondaires du manque, c'est-à-dire quand on est stressé, énervé, angoissé, et les fringales qui font peur à beaucoup de femmes, l'histoire de la prise de poids. Donc, tout ça, si on ne le ressent pas ou qu'on le ressent peu de temps, ce qui peut arriver à certains, tant mieux, on peut arrêter sans rien. Mais surtout, sachez que si vous avez une souffrance, il y a des traitements et les traitements sont adaptés pour justement ne pas souffrir de ce manque qui est le manque de nicotine.
Et peut-être que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut commencer sans rien. Et puis si on sent au milieu, au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, j'en sais rien, qu'on commence à se fragiliser, on adapte, on revient, on se patche, j'en sais rien, on fait ce qu'on veut.
Les signes de manque, quand ils doivent exister, ils surviennent dans les premiers jours de l'arrêt. Donc c'est vrai que cette auditrice a eu la chance mais elle a raison dans le fait, quand elle dit tout se passe dans la tête, la décision c'est important, ça doit être une décision personnelle, et on voit bien les arguments positifs qui l'ont poussée à prendre cette décision. C'était son avenir santé, sa fille qui se mariait, ses petits-enfants qui allaient arriver, et ça a apporté sa décision et sa motivation.
Ça veut dire que si on n'a pas envie de fumer, d'arrêter de fumer, on peut pas arrêter de fumer, en gros. Si on sait au fond de sa tête que oui c'est mauvais, donc il faut que j'arrête, mais qu'en soi on n'a pas envie, plus compliqué.
Il faut savoir pourquoi on n'a pas envie. Très souvent les gens déclarent, je n'ai pas envie d'arrêter de fumer parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible, parce qu'ils ont peur d'être en manque, parce qu'ils ont peur de prendre du poids. Et donc nous, et Marion me contredira pas. Merci. Non, surtout qu'on dit souvent la même chose toutes les deux. Donc voilà, là on va se couper la parole l'une et l'autre. Du coup, j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais dire.
Moi aussi.
Ben voilà.
En fait, ce que tu disais, c'est que en effet, si on ressent le manque, c'est tout de suite.
C'est ça.
Tu as tout à fait raison, Anne. Ouais. Et en effet, le manque tout de suite, ça veut dire qu'il faut tout de suite prendre des traitements. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas envie d'arrêter de fumer. En effet, ce que tu disais, c'est parce qu'ils ont peur de la souffrance, de l'arrêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut toujours essayer un ou deux jours avec les traitements. Et c'est pour ça que je dis, faut pas attendre un mois pour prendre les traitements. Et là, ça peut marcher tout de suite. Et on peut être surpris. Moi, j'ai des patients, quand ils savent qu'on peut fumer avec des patchs, ils sont surpris. Le premier jour, ils me disent, c'est incroyable, j'avais pas spécialement envie, j'ai essayé. Et en effet, j'ai passé de 20 cigarettes.
Je l'ai fumée, elle était pas terrible.
Elle était pas bonne, exactement.
Moi, je suis épatée et elle est pas la seule, Evelyne, à avoir gardé son paquet de cigarettes près d'elle. Il y a plein de gens qui font ça.
Oui, moi, je conseille plus à un moment donné. C'est-à-dire qu'une fois que ça roule et qu'on sait qu'on peut vivre sans la cigarette, il vaut mieux le jeter, parce que si on a un coup dur, X ou Y, le souvenir de la cigarette peut venir. Et à ce moment-là, il vaut mieux pas en avoir sous la main.
Il vaut mieux qu'il soit loin.
Loin, donc
le produit soit loin, parce que l'envie qui sera comme ça, une pulsion momentanée, s'il faut aller au bureau de tabac faire la démarche, l'envie va passer. Alors que si on l'a dans le tiroir sous la main, on peut craquer plus facilement.
Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y Antoine, on vous écoute.
Alors je fumais 3 paquets de cigarettes, du tabac blond, et je suis journaliste. Et c'était vraiment ma consommation quotidienne, 3 paquets de cigarettes. Et un jour, j'ai cru que j'allais étouffer. J'ai décidé d'arrêter de fumer le lendemain en me disant, si je trouve une pharmacie avant 11h30 qui est capable de m'expliquer comment arrêter, j'arrête. C'était des patchs, donc 7, 14 et 21 mg. Et j'ai commencé donc par les 21 en allant chercher tout. J'avais acheté tout le lot, c'est-à-dire le traitement pour 3 mois. Mmh. Et je l'avais laissé en dépôt dans cette pharmacie. Et tous les jours, j'allais chercher mon patch, comme si j'allais prendre un paquet de cigarettes. J'ai tenu les 3 mois. Alors, ce sont les premières semaines qui sont vraiment les plus dures. Et je me disais, si je suis pas capable de résister, je suis un moins que rien. Et en fait, je me suis automotivé, si l'on peut dire. Et en allant chercher ces patchs de manière quotidienne, et en fait, il y a eu un transfert du tabac vers le patch, et finalement, vers l'arrêt de fumer. Et j'ai le souvenir de cette équipe de pharmaciennes et pharmaciens qui tous les jours prenaient de mes nouvelles, avec même des clients qui disaient « Bravo, continuez
!» C'est super.
Et ça a été formidable. Et en fait, je suis sorti du tabac comme cela. J'ai décidé d'arrêter un 21 août 2001. Je n'ai jamais repris la cigarette depuis.
Eh ben écoutez, Antoine, de trois paquets à rien, bravo. Moi, je trouve ça très intéressant, Anne Bourne, cette substitution d'aller quelque part, comme on va au bureau de tabac, mais on va chez le pharmacien.
On entend bien là que le soutien de l'équipe et des clients de la pharmacie ont été très importants pour ce monsieur. Et c'est d'ailleurs l'esprit du mois sans tabac. Hein. C'est arrêtons ensemble, arrêtons en groupe, faisons-nous soutenir, ne faisons pas ça seul dans notre coin. Probablement, là, il a fait le traitement classique 21-14-7, dont aujourd'hui on est sorti parce que 21 mg, c'est pas beaucoup pour les gros fumeur très dépendant, et probablement que son arrêt aurait été plus confortable, il a quand même réussi, c'est ça l'essentiel, mais il aurait été plus confortable et avec moins de tension et moins de douleur du sevrage s'il avait pu avoir des doses supérieures et mettre deux patchs voire trois patchs, ou d'associer des gommes, des pastilles ou une vape en même temps. La substitution nicotinique, je sais que Marion elle aime bien cette expression, c'est quand on a mal à la tête on prend du paracétamol, ou on n'en prend pas, on attend que ça passe. Ben, la substitution nicotinique c'est ça, soit on accepte la douleur et on lutte et on fait avec, soit on se dit j'ai pas très envie de souffrir, ça va être plus facile si je prends des substituts ou de la nicotine sous toutes ses formes.
Ce que je retiens jusque-là, il y en a d'autres, des témoignages qui vont venir, c'est que, alors d'abord, il n'y a pas une méthode évidemment pour arrêter de fumer, Marion Adler, mais on n'est pas égaux non plus devant l'arrêt de la clope en fait, les uns et les autres, très très loin même.
Alors on n'est pas égaux et ça c'est important à savoir parce que Anne et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte le traitement à chaque patient est unique. Et donc, on va non seulement lui proposer quelque chose qui nous semble la bonne dose au départ, hein, quand on a une fracture de jambe, si on fait 1m90, on va prendre des béquilles qui sont grandes, et là c'est pareil, donc en fonction du nombre de cigarettes, on va pouvoir adapter le traitement, ça peut être aussi avec les traitements médicamenteux, hein, comme le Champix, mais surtout, au fur et à mesure, on va adapter pour que le patient se sente tout le temps bien. Et ce que je dis aux patients, c'est moi je suis votre coach, alors vous allez amener les problèmes si vous en avez, et là on va gérer ensemble pour que ce soit jamais un problème et que ce soit que un plaisir l'arrêt du tabac. Évidemment en 24 heures on respire mieux, donc c'est toujours un plaisir.
Sophie, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir mesdames.
Allez-y Sophie, on vous écoute.
Alors j'ai fumé ma première cigarette à 12 ans sous un porche d'immeuble en sortant du collège. Je n'ai jamais arrêté, si ce n'est pendant mes trois grossesses, ne voulant pas imposer ce fardeau à mes futurs enfants. Et j'ai 48 ans aujourd'hui, j'avais 45 ans quand je me suis commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête de fumer. Mais sans avoir franchement la volonté de le faire et parce que je retrouvais beaucoup de plaisir à fumer. Et puis un matin, j'ai mis un pied par terre en me levant et là je me suis dit ça y est, il faut que j'arrête. Parce qu'en fait, en multipliant les raisons, donc psychologiques, financières, de santé et morales, j'avais plus assez de mes 10 doigts pour me dire qu'il était temps que j'arrête. Et je refusais le patch, j'ai refusé aussi la vapote. Parce que soit j'arrêtais pas en fait. Et si je devais arrêter par moi-même. J'ai quand même voulu me faire aider, donc j'ai fait appel à une hypnothérapeute. Et en une séance, le problème a été réglé. Pourquoi il a été réglé? C'est parce que j'avais, un, la volonté d'arrêter de fumer, c'est-à-dire que c'était décidé. Et deux, parce que quand j'ai abordé mon rendez-vous avec mon hypnothérapeute, j'ai dit que je ne voulais pas traiter le problème de la cigarette, mais je voulais traiter la raison de pourquoi j'avais commencé à fumer à l'âge de 12 ans. Donc en une séance, on est remonté suffisamment loin pour essayer de comprendre et d'aller trouver les raisons du pourquoi j'avais fumé. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'elle a été partie, au bout d'une heure et demie, je n'ai jamais rallumé une seule cigarette. J'ai retrouvé un sentiment de liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dimanche soir où j'ai pas de club, vite, il faut que je trouve un tabac ouvert pour aller chercher mes cigarettes et pouvoir avoir ma petite dose. Et surtout, ce que je ne voulais pas et j'ai réussi à l'acquérir, c'est-à-dire que je ne suis pas l'ancienne fumeuse embêtante, c'est-à-dire qu'on peut fumer autour de moi et ça ne me gêne pas en fait. Donc c'est pour ça que je vous rejoins quand je vous dis que c'est psychologique, c'est dans la tête. Quand on a décidé, quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, on va y arriver. C'est une volonté, voilà.
Et pour les voisins, il ne faut peut-être pas pousser non plus quand même, Sophie, qui soit un peu participatif, on va dire, c'est pas plus mal. Anne Bourne, moi, il y a une chose que je retiens de ce que dit Sophie. D'abord, l'idée, effectivement, parce que moi, ça me parle, de ne pas vapoter, au fond, parce que c'est fumer aussi, en fait, et que le geste, au fond, est le même. Et que peut-être qu'il faut se débarrasser du geste en même temps qu'on se débarrasse de la nicotine, de la fumée et du reste, en fait.
Le geste, c'est un faux problème. Alors, c'est difficile d'entendre pour des fumeurs actuels qui ont l'impression que le geste, c'est extrêmement important. Mais le geste de prendre une cigarette, de la mettre dans sa bouche et d'inhaler de la fumée, c'est d'amener très, très rapidement, en 7 secondes, de la nicotine sur ses récepteurs cérébraux. La vape, c'est pas du tout ni les mêmes sensations, ni le même comportement. La nicotine de la vape pénètre très très doucement dans l'organisme. C'est plus un substitut nicotinique que un stimulant des récepteurs nicotiniques. Ça ne provoque pas du tout le même plaisir. C'est un plaisir différent. Tout se passe au fond de la gorge, tout se passe au niveau du goût. C'est pour ça qu'on voit souvent les vapoteurs, ils vapotent tout le temps. Enfin, ouais. Voilà, parce que du coup, la nicotine, elle monte pas très haut. Donc, ils sont obligés de se recharger sans arrêt. Et ça devient un comportement complètement différent. Et alors, l'idéal dans la vie, c'est de manger pas gras, pas sucré, pas salé, de faire du sport, de pas fumer, de pas boire d'alcool, d'avoir vraiment une hygiène de vie. Ça c'est l'idéal. Après, on n'est pas dans une vie parfaite.
Non, voilà.
Et donc, vapoter, c'est, enfin, si on doit avoir choisir entre vapoter et fumer, mais c'est un choix, on peut aussi choisir de ne pas fumer du tout, mais si ça n'est pas possible, il vaut mieux vapoter.
Quand on voit les vapoteurs vapoter, ça dit, on se dit que finalement, ils vapotent plus qu'ils ne fumaient au fond, parce qu'ils ont toujours la vape à la bouche. Au final, Marion Adler, c'est quand même un peu curieux, non?
Alors justement, moi, je pense que ça fait partie des conseils que je donne à mes patients, c'est pour éviter d'avoir besoin d'en prendre tout le temps la vape, et en particulier dans les endroits où ils n'auraient pas fumé, c'est de n'utiliser que la vape dans les endroits où ils auraient fumé. Mmh. Et on s'y fait très bien. C'est aussi une histoire de comportement. Si on s'autorise à prendre la vape dans les endroits où on aurait fumé et pas à l'intérieur et pas devant les enfants et pas devant son voisin, on y arrive très bien. Mmh. Mais pour ça, il faut peut-être la bonne dose de nicotine et souvent, il faut réaugmenter la dose de nicotine. Les gens sont sous-dosés en nicotine dans la vape ou bien rajouter un patch ou des gommes, ça peut très bien aider aussi.
Est-ce qu'il y a un âge statistique? Parce que Sophie qui nous dit qu'elle a 48 ans est à peu près dans la moyenne d'âge des auditeurs qu'on a eu jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une espèce d'âge statistique où on se dit que non, mais ça va pas être possible, il faut s'arrêter de fumer? On a l'impression que tout le monde là arrête après une vingtaine d'années, en gros, entre 20 et 25 ans. Alors j'imagine qu'on a tous peur de mourir un moment ou un autre, en vieillissant. Je ne sais pas si c'est ça qui joue, mais...
Heureusement, il y a des gens qui ont le déclic avant. Moi, j'ai pas mal de patients jeunes et ça dépend de chacun. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de l'arrêt. Et justement, les traitements sont là pour aider. La vape est là pour aider. Et donc, si on n'y arrive pas seul, il vaut mieux ne pas continuer à fumer pendant encore 10 ans. Il vaut mieux essayer avec des traitements parce que on n'est pas plus héroïque d'arrêter avec que sans les traitements. Même si on le fait seul ou avec des traitements, c'est comme guérir en effet de la fracture de jambe. Hein. Encore une fois, si on a le plâtre, ça va guérir dans le bon sens. Et si on a les béquilles, ça va guérir sans douleur. Donc autant le prendre, on peut le faire.
Et le plâtre, la béquille, tout. Mettez-moi tout, docteur. Geoffrey, bonsoir.
Bonsoir. Alors moi, j'ai fumé pendant longtemps aussi, pendant 20 ans. J'ai commencé à 15 ans au lycée, à l'internat, la première clope. Et il y a 2 ans maintenant, je me suis dit que c'était le bon moment. Il fallait arrêter. J'avais pas mal réduit. J'étais passé par plusieurs phases où j'avais réduit la cigarette puis repris de plus belle. Et sans substitut, si ce n'est une reprise d'activité sportive et aussi de la pratique du yoga, qui m'a vachement aidé en fait à arrêter. Je pense, avec du recul, le yoga m'a pas mal aidé à arrêter. Et mon entourage aussi, mes amis qui me motivaient, ça aussi, ça m'a aidé. Mais je suis pas passé par la case ni vapo, ni patch. Et le mois sans tabac a été une des raisons aussi qui m'a motivé à arrêter il y a 2 ans. Donc, je sais pas si c'était la première édition, la deuxième édition peut-être. Et en tout cas, aujourd'hui, je continue le sport. J'ai arrêté le yoga, mais j'ai pas du tout envie de reprendre la cigarette. Même si je peux, j'ai des amis qui fument, je suis dans un entourage de fumeurs, alors je suis pas devenu non plus trop chiant avec les fumeurs qui envoient parfois la fumée dans mon nez.
Il y a rien de pire qu'un fumeur repenti, Geoffrey.
Mais voilà, très très content de m'être libéré de ça. Je me moquais un peu d'une amie qui avait arrêté quelques années en arrière, qui se disait être une femme libre. Et je disais oui, c'est ça, on est libre. Oui, tu es libre, bien sûr. Et finalement, non, je comprends beaucoup mieux son message. Et effectivement, il y a un sentiment de liberté et la santé qui rentrait en compte aussi vachement. J'avais des soins dentaires à l'époque qui penchaient dans la balance du faudrait peut-être qu'on songe sérieusement à arrêter.
Mmh. J'ai les dents jaunes, j'ai le teint blafard et j'ai une haleine de chacal, donc il est temps d'arrêter. Merci pour ce témoignage, Geoffrey. Il y a 2 choses que je retiens, moi, Marion Adler. D'abord, les amis autour l'ont aidé, les amis, la famille, etc. C'est important, surtout au début, j'imagine.
Très important.
Alors, de ne pas fumer, effectivement, sous le nez de l'ancien fumeur ou de le féliciter,
absolument.
J'en sais rien.
Et puis quand on est conjoint, on peut s'y mettre en même temps. Ça nous fera du bien à nous-mêmes pour notre santé, mais aussi ça va accompagner le conjoint. Puis il y a quelque chose de très important dans ce qu'il dit, c'est la stimulation des endorphines par le sport. Alors si on n'aime pas faire le sport, ça peut être une activité physique, ça peut être simplement j'allume la musique et je danse chez moi. Mmh. C'est une activité physique qui me permet de dépenser mes calories, de stimuler mes endorphines.
J'imagine là, subitement.
Et, oui. Et parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire du sport. Oui, donc il faut savoir ce qu'on aime. Ça comme peut être dites. Marcher rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 20 minutes d'effort continu, on commence à puiser dans ses réserves. Et donc ça, c'est tout bénef pour éliminer ses calories. Et puis surtout, on stimule ses endorphines. On n'a plus besoin de la nicotine pour stimuler rapidement les endorphines.
Anne Borne.
Là, on entend plusieurs auditeurs qui ont arrêté sans substitut, oui, sans traitement, beaucoup, sans accompagnement médical, etc. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de fumeurs qui arrêtent seuls, justement. Et ils en sont l'exemple et ils nous racontent la liberté qu'ils ont retrouvée sans passer par le médecin, le tabacologue, les traitements pharmacologiques, etc. Évidemment qu'on peut arrêter de fumer tout seul. Et Marion et moi, on a un peu l'esprit un peu déformé parce qu'on ne rencontre que les gens qui viennent nous demander de l'aide et qui sont en difficulté. Et aussi, notre travail, c'est pas seulement répondre à la demande d'aide. Moi, je travaille dans un centre d'addictologie, c'est-à-dire que je m'occupe de patients qui ont toute conduite addictive. C'est de leur proposer de les aider à arrêter. Et on est très étonné du nombre de gens qui vont, pensant au début que ce n'est pas possible parce qu'ils ont un problème avec l'alcool, ils ont un problème avec l'héroïne ou avec autre chose, que c'est pas possible pour eux et que finalement, quand on les accompagne, c'est possible d'arrêter de fumer même dans ces situations.
C'est intéressant ce que dit Geoffrey sur le mois sans tabac, notamment. Ça existe depuis très peu de temps en France, ça existe ailleurs depuis très très longtemps. C'est d'ailleurs, on l'a copié sur les Anglais.
C'était Stoptober.
Voilà. On mesure, est-ce qu'on peut mesurer jusqu'à quel point ça marche ou pas? Alors en chiffres, je sais pas, mais enfin j'imagine que vous le savez, non?
Que oui, je pense
ça a
que
c'est un déclic, un révélateur.
En fait, souvent on fait un décompte des gens qui se sont engagés, donc ça c'est assez facile, hein. Ils s'engagent sur le site de Santé Publique France et donc là ils peuvent avoir un décompte. En Angleterre, on voit vraiment une diminution nette des fumeurs et en France, ça a été les deux dernières années, donc c'est la troisième année cette année, on voit qu'il y a clairement une diminution. Plus les mesures de santé publique
j'allais dire,
efficaces.
Tout
quand même,
va en même temps, en fait, le prix.
Le prix qui augmente et surtout les substituts qui sont remboursés. Le Champix qui est remboursé. Il faut quand même pas oublier que le gouvernement a quand même mis le paquet là. Il y a deux mesures de santé publique importantes. C'est l'augmentation du prix du tabac, mais en plus, le remboursement total des consultations et des traitements.
Et le paquet neutre, ça a joué ou pas, selon vous?
C'est l'ensemble des mesures. Oui, bien sûr. C'est l'ensemble de ces mesures. Et cette pression médiatique, là, on voit Marion et moi, on fait un peu la tournée. Et tous nos collègues. C'est très important parce qu'on en parle beaucoup. Et donc, il y a plein de gens qui écoutent et qui se disent, ah bah oui, pourquoi pas, en nous entendant, nous, mais aussi en entendant les exemples des auditeurs qui sont en train de raconter comment ça s'est passé pour eux.
Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir. Moi, je voudrais apporter un autre éclairage. Alors, j'ai arrêté de fumer il y a 9 mois. Alors, d'accord, je suis très contente d'avoir retrouvé l'odorat, machin. Pour le, économiquement, c'est intéressant. Je n'ai plus d'addiction. Enfin, tout ce qu'on a déjà entendu. Mais par contre, j'ai fumé pendant 35 ans et mon métabolisme est complètement chamboulé, psychique et physique. Alors, j'ai un ventre énorme. Je pète et ça pue. Je rote, excusez-moi, c'est horrible, mais j'ai le ventre ballonné, j'ai des flatulences, alors c'est pas très glamour. Hein.
Ah non, c'est pas glamour du tout.
Vraiment plus que la clope. Je vois un gâteau, je prends 500 grammes rien que de le regarder. Donc en fait, par derrière, ça fait 9 mois que je suis en train de me restreindre sur l'alcool, sur la nourriture, essayer de faire un maximum de sport, etc. Parce que mon métabolisme est complètement chamboulé. Et y compris des sautes d'humeur, etc. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Arrêter, c'est à mon avis pas si dur que ça. Il y a eu plein de témoignages sur tout plein de méthodes. Mais après, qu'est-ce qu'on fait quand le métabolisme est changé? Quand je demande à mon médecin, ma médecin généraliste, elle sait pas. Donc faut que je bricole, faut que je me débrouille, mais c'est pas un long fleuve tranquille. Hein.
Merci pour ce témoignage, Catherine. J'allais dire courageux parce que effectivement, alors c'est pas toujours simple. Le métabolisme peut bouger à ce point-là, Marion Adler.
Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être qu'elle avait besoin un peu plus longtemps de prendre de la nicotine et d'aller très 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 doucement chez ce genre de patiente. Très souvent, ce que je fais, c'est que je fais une diminution très 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 progressive de nicotine qui permet justement au métabolisme de se réadapter.
Vous avez arrêté comment, Catherine?
Moi, j'ai arrêté parce que grâce à la méditation, en fait. Et en fait, je l'ai décidé parce que il y avait plein de choses qui, il y avait plus rien qui allait dans ma vie. Enfin, c'était un moment compliqué. Je me suis dit je vais faire quelque chose de constructif pour moi.
Mais du
parce
coup,
que j'avais des réfugiés à la maison.
Sans substitut nicotinique, Catherine.
Pour moi.
Mais sans substitut nicotinique, du coup.
Sans substitut, mais Ça faisait 2 ans que je fumais des cigarettes sans additif.
Ça change rien.
Il paraît que ça change rien.
Je vois bien lesquelles vous dites,
celle avec l'Indien sur le paquet, ouais. Il paraît que ça change rien.
Ça change rien du tout.
Je savais pas. Moi, je me suis dit, c'est pas si dur. Peut-être que c'était à cause de ça.
Il paraît même que c'est pire. Vous allez m'arrêter si je me trompe, Anne Born ou Marion Adler. Il paraît que c'est pire parce que ces cigarettes sans additifs ont finalement plus de nicotine, en fait. Et que du coup, c'est pire.
C'est le tabac roulé qui est un peu, c'est les déchets du tabac industriel et donc qui sont très chargés en monoxyde de carbone et en produits cancérigènes.
Alors, une question pour Catherine et pour qu'elle se sorte quand même de son histoire de métabolisme, la pauvre. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si elle venait maintenant au substitut nicotinique, en fait, donc elle recommence à zéro, en fait, mais sans reprendre la clope, est-ce que ça irait mieux?
Alors, elle recommence pas à zéro, elle prend que de la nicotine et très probablement, ça va l'aider à retrouver son métabolisme. Et moi, c'est ce que je ferais. J'essaierais avec une patiente, je veux pas dire que ça va obligatoirement marcher, mais j'essaierais avec un petit peu de nicotine pour lui permettre peut-être de retrouver un petit peu son métabolisme et puis de se sentir mieux. Parce que là, clairement, c'était trop brutal, le sevrage en nicotine. Et puis, il y a autre chose, c'est que peut-être il faudrait quand même qu'elle aille voir un gastro pour voir un peu ce qui se passe au niveau des intestins, parce que ça peut peut-être révéler aussi l'arrêt du tabac, quelque chose qui préexistait et qu'il faut peut-être voir au niveau du trouble digestif.
Alors, elle parlait notamment du gâteau qui fait prendre 500 grammes aussi. On a tous lu avec beaucoup d'intérêt ces fameuses statistiques qui disent que les cancers du poumon sont en augmentation de 72% chez les femmes, enfin ce qui est un chiffre énorme. Et l'une des raisons pour lesquelles les femmes ont plus de mal à arrêter de fumer, paraît-il, c'est la prise de poids.
Oui, c'est vrai, en effet. C'est une réalité. La prise de poids, si on ne s'en occupe pas, si on ne la prévient pas, elle peut survenir parce que la nicotine augmente les dépenses énergétiques. Donc quand on fume, on dépense plus d'énergie que si on ne fumait pas. Parce que la nicotine, ou le tabac en tout cas, coupe l'appétit. Donc on arrive à ne pas prendre le gâteau justement parce qu'on a pris une cigarette. Et parce que quand on est en manque de nicotine, justement, on va se jeter sur le sucré. On a une déviation du goût vers le sucré et on va manger plus. Donc tout ça peut faire des prises de poids très importantes. D'où aussi l'intérêt de la substitution nicotinique pour pallier à ça. Et de l'exercice physique dont nous parlait l'auditeur précédent.
Et justement, Yolande, vous, c'est ça votre souci. Bonsoir.
Oui, bonsoir. En fait, moi, j'ai arrêté la cigarette à la suite d'une occlusion parce que j'ai eu très peur de mourir. J'ai réussi à arrêter 3 mois et 3 mois, j'ai pris 7 kilos. Et alors, je suis grande, on me dit, oh, ça se voit pas. Enfin bon, mais ça reste 7 kilos de pris. Et sans changer aucunement mes conduites alimentaires. Donc, à la suite de ça...
C'est ce qui vous a fait reprendre ou pas? C'est pour ça que vous avez repris ou pas, Yolande?
Oui. Oui, oui.
Et vous n'êtes pas toute seule dans ce cas-là, Marion Adler. Est-ce qu'il faut... Alors, moi-même, je trouve ça extrêmement compliqué. Hein, est-ce qu'il faut se dire, les 4 premiers mois, je vais les prendre, les kilos, j'arriverai à réguler après.
Non, on est tout à fait d'accord avec Anne. Hein. C'est clair, c'est qu'il ne faut pas les prendre, les kilos. Et il faut surtout tout faire pour prévenir ça. Et en effet, comme disait Anne, hein, avec suffisamment de nicotine, elle n'aurait pas eu cette difficulté-là, elle n'aurait pas eu cette souffrance, elle n'aurait pas pris ses kilos. Et en plus, avec un petit peu d'exercice physique, hein, je peux dire faire une heure de marche par jour, ou pas par jour, 3 fois par semaine, alors qu'on n'en faisait pas du tout, ça peut déjà dépenser les calories. Donc franchement, prenez les béquilles pour justement ne pas avoir tout de suite cette souffrance. Si on prend des kilos, on n'est pas content et on va reprendre la cigarette, alors là, on va avoir le cancer du poumon, l'infarctus. Non, c'est trop dommage. Cette liberté qu'elle a gagnée en arrêtant un certain temps, elle aurait pu le faire vraiment en douceur, en prenant les traitements adaptés, alors qu'elle prenne les traitements adaptés qui lui permettent justement de ne pas avoir ces fringales.
Ce message de Jean sur franceinter.fr, j'ai arrêté de fumer en 2006, mais je continue à mâcher des produits nicotiniques et c'est difficile de m'en passer. C'est vrai qu'il y a des gens qui continuent à mâchouiller. Est-ce que c'est pas grave, au fond, c'est pas grave mâchouiller?
Non, alors moi, je mange de la nicotine alors que j'ai arrêté de fumer il y a 22 ans. Mais j'en mange pas depuis 22 ans, j'en mange par période. Parce que c'est bon, les gommes à la nicotine.
Ah, vous trouvez?
Ah oui, oui.
Les
dernières nées sont très bonnes, celles qui sont aux fruits, elles sont délicieuses. Alors, ça ne pose pas de problème. Il y a plein d'études qui montrent qu'il n'y a aucun problème pour la santé de manger de la nicotine pendant longtemps. Le seul problème, c'est que on a à nouveau une dépendance. Moi, ça m'arrive d'en avoir marre de manger mes gommes et que je me dis qu'il va falloir que je les arrête à un moment. C'est quand même plus facile d'arrêter les gommes que d'arrêter le tabac. Mais ce qui est moins facile, c'est que comme il n'y a pas de risque pour la santé, on a plus de mal à passer à l'action, justement.
Mais est-ce que c'est pas juste psychologique? Parce que moi, par exemple, je mange du chewing-gum comme une forcenée. Bah, au fond, c'est pareil. Au fond, je me dis que c'est pareil. En fait.
Oui, moi, quand je mange un chewing-gum qui n'a pas de nicotine, ça me fait moins de plaisir, quand même. Ouais. Ouais.
En fait, c'est ce que je propose, moi, à mes patients qui veulent arrêter les gommes quand ils en ont un peu marre de prendre des gommes et s'ils sont dépendants des gommes, c'est de commencer par les couper en deux et de prendre un chewing-gum normal avec. Et puis après, de reprendre un tout petit bout de chewing-gum à nicotine et au fur et à mesure, ils s'en débarrassent un petit peu comme on s'est débarrassé finalement de la cigarette aussi. Ça peut être progressif.
Vous avez toujours envie de fumer, vous, Anne Borne?
Ah non,
par
non,
exemple,
pas du tout. Ah, j'ai
vous
plus
avez
du
envie
tout
de nicotiner.
Envie de fumer depuis très très longtemps.
Mais non, vous avez quand même envie
mais
de
j'aime bien mes gommes.
Ok.
Et, mais bon, c'est 5 ans avant, 5 ans avec, 5 ans sans. Là, je pense que je vais passer une période sans, quand le mois sans tabac sera terminé, qu'on aura un peu moins de travail.
On va faire le mois sans gomme.
Voilà, ça sera le mois sans gomme.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
C'est vous le dernier, Olivier, on vous écoute. Bienvenue.
Donc voilà, il y a 2 ans et demi, ma famille m'a un petit peu forcé à prendre conscience que c'était compliqué le tabac. J'étais à presque plus de 2 paquets par jour. Et puis, voilà, j'ai décidé d'arrêter. J'ai pris ma décision 2-3 mois avant. Et puis, j'ai arrêté pour m'aider. Je me suis fixé une petite marotte, un petit rêve que j'avais depuis longtemps, qui était de monter sur une montagne, qui est le Mont Blanc. Alors, j'ai arrêté, je me suis entraîné. J'ai pris aucun substitut pour m'aider, parce que pour moi c'était garder un pied un petit peu dans la porte. Et puis voilà, il y a un an pratiquement jour pour jour, j'ai réussi mon rêve et je suis le plus heureux des hommes d'avoir quitté finalement le dictat du tabac.
Et est-ce que vous êtes fixé un autre challenge alors du coup, ou c'est bon, le challenge est fait, vous avez monté le Mont Blanc et c'est bon?
J'arrête pas de me fixer des challenges depuis le Mont Blanc, le Mont Rose, et puis voilà, et puis le Mont Rose qui est en Italie, et puis plein d'autres, et puis un à venir pour l'été prochain. En fait, c'est une nouvelle vie, c'est un sourire au quotidien, et c'est vraiment se sortir de cette peur du dimanche après-midi. On n'a plus de cigarettes, on est capable de faire 15 kilomètres pour aller chercher son paquet, sa dose. Enfin, tout ça, c'est aussi cette horreur du tabac au quotidien qui a disparu, quoi.
Tous les monts pour Olivier. Bravo à vous, Olivier. Profitez-en de tous les monts. C'est important, Anne Borne, de se donner de se récompenser, en fait. C'est aussi bête que ça, hein.
Mais là, de se fixer un challenge, et c'est vrai que pour monter le Mont Blanc, vaut mieux avoir arrêté de fumer avant, parce que sinon, c'est un peu compliqué de le faire. Mais moi, ce que j'entends dans tous les témoignages de ce soir, c'est que quelle que soit la stratégie qu'on a utilisée, traitement, pas traitement, accompagnement, pas accompagnement, hypnose, le Mont Blanc, quelle que soit la stratégie, l'essentiel, c'est d'être un ex-fumeur heureux. Et là, on a entendu la liberté, le bonheur, de retrouver des sensations, etc. Et c'est ça qui est important.
Et moi, ce que je trouve intéressant, Marion Adler, c'est que personne ne parle d'argent, en tout cas comme motivation. Alors évidemment que ça compte, hein, pour tout le monde, comme motivation première. Et au fond, ça ne m'étonne pas. Acheter un paquet de clopes, bon, ça va assez vite, ça coûte moins de 10 euros, etc. Il n'est pas là, le bonheur, en fait. Il est plutôt dans le Mont Blanc que dans le fait d'avoir économisé de l'argent, en fait.
Alors c'est la cerise sur le gâteau, hein, quand même, parce qu'on en arrive à plus de 2500 euros par an économisés quand on fume un paquet par jour. Quand on en fume 2, vous imaginez plus 5000 euros par an économisés.
Ça fait un beau voyage.
Donc c'est quand même super. Et alors, ce qui est important dans ce qu'il disait aussi pour le Mont Blanc, c'est la stimulation des endorphines autrement. C'est réapprendre. L'arrêt du tabac, c'est réapprendre à se faire plaisir autrement.
2864,89 €.
Bravo. Bravo. Important. Donc, c'est vraiment se faire plaisir autrement et stimuler ses endorphines, c'est vraiment important. On peut le faire autrement qu'avec les drogues et en particulier autrement qu'avec la nicotine des cigarettes.
Allez, avant de se quitter, 2 témoignages. D'abord, sur franceinter.fr. D'abord, c'est dommage, j'arrive pas à trouver le prénom de ce monsieur, de cette dame qui dit « Moi, j'ai pas suffisamment de volonté, j'ai jamais réussi à commencer à fumer. » Bravo. Et effectivement, c'est là que ça commence. Et puis, ce témoignage qui m'a fait beaucoup rire cet après-midi. 10 juillet 2006, le lendemain de la défaite de l'équipe de France de foot face à l'Italie après le mémorable coup de sang, coup de bélier de Zinedine Zidane. Je me réveille ce matin là en me disant « Mais qu'est-ce que je peux faire pour oublier ce match nul ?» Eh ben, j'ai qu'à arrêter de fumer, comme ça je penserai à autre chose. J'ai plus jamais touché à une cigarette. Et merci, Materazzi. Est-ce que c'est pas formidable? Après tout, chacun, effectivement, ses contournements et chacun ses méthodes pour arrêter de fumer. Merci à toutes, merci à tous. Merci à vous deux, merci à tous pour vos nombreuses questions, comme d'habitude. Et portez-vous bien.